Radio Shalom, le journal vous est présenté par Bernard Abouaf.
Bonsoir à tous. Le projet de loi Bismuth, présenté à la Knesset en Israël, maintient l'exemption des étudiants de yeshiva et limite même les sanctions jusqu'à 26 ans pour ceux qui refusent de s'incorporer dans l'armée, même si le service militaire est théoriquement obligatoire en Israël. Boaz Bismuth est un député du Likoud et il a dévoilé une nouvelle version de son projet de loi qui est pourtant très controversée. Naftali Bennett, par exemple, dénonce carrément une loi anti-sioniste et il promet de bloquer l'exemption donc, qui est inscrite dans la loi désormais du service militaire pour les plus religieux en Israël. Il a réagi à cette proposition de loi et selon lui, le gouvernement a franchi un point de non-retour. Un an après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Liban, déjà un an, Tsahal dresse un bilan de son action visant à empêcher le Hezbollah de se reconstituer. Et lorsque l'on regarde les chiffres, on pense à tout sauf à un cessez-le-feu. Tsahal revendique 370 terroristes éliminés, donc ça fait plus d'un par jour si on sait compter, et plus de 1200 opérations ciblées. L'Égypte chercherait à obtenir au Liban un accord inspiré de celui conclu à Gaza. Selon le quotidien libanais Al-Akhbar, qui est affilié au Hezbollah, citant des sources égyptiennes, la visite du ministre égyptien des Affaires étrangères à Beyrouth prend de l'ampleur et s'inscrit désormais dans l'élaboration d'un cadre politique pour les prochaines semaines. Une équipe de la Croix-Rouge et un groupe du Hamas ont repris les recherches pour retrouver un corps d'un otage dans le quartier de Zetoun qui se trouve dans la ville de Gaza City. On part pour Jérusalem, on le retrouve notre correspondant permanent Dror Even Sapir. Bonsoir Dror.
Bonsoir.
Dror, alors, le projet de loi de Boaz Bismuth, il faut nous l'expliquer, on lui dit que c'est un compromis, l'opposition affirme au contraire qu'il a totalement capitulé, le projet, je viens de le dire à l'instant, maintient l'exemption des étudiants d'Yeshiva et limite même les sanctions jusqu'à 26 ans. La commission, cependant, veut aller vite et accélérer l'examen de cette loi qui... il est vrai, est en discussion sous une forme ou sous une autre depuis très longtemps.
Oui, le fait que l'opposition parle d'une disgrâce, voire même, dans les propos de l'ancien Premier ministre Naftali Bennett, d'une loi anti-sioniste n'est pas surprenant. Mais ce qui peut peser sur la suite des événements, c'est l'attitude d'un certain nombre de députés de la coalition, notamment dans les rangs du Likoud et du parti sionisme religieux de Bezalel Smotrich, qui sont opposés à cette loi et qui l'ont fait savoir, notamment l'ancien président de la commission parlementaire de la défense et des affaires étrangères, donc le prédécesseur de Boaz Bismuth, le député Likoud Yuli Edelstein et d'autres parlementaires de son parti, ont affirmé très clairement qu'ils n'allaient pas voter en faveur de cette loi, donc soit voter contre, soit s'abstenir, ce qui pourrait mettre en difficulté ce projet de loi élaboré par Boaz Bismuth, et en conséquence de quoi, les partis orthodoxes qui réclament, qui exigent que cette loi soit adoptée, ou qu'une loi régularisant le statut des jeunes orthodoxes soit adoptée, eh bien ces partis une fois orthodoxes pourraient décider, si la loi n'est pas adoptée, eh bien, non seulement de rester en dehors du gouvernement, c'est le cas actuellement, mais également peut-être de voter avec l'opposition pour la chute de ce gouvernement en Netanyahou, même si on n'en est pas encore là. Mais il y a véritablement une impasse politique autour de cette question. Il se pourrait même que ce projet de loi, s'il ne satisfait pas un certain nombre de députés de la coalition actuelle, pourrait également ne pas satisfaire les grandes figures rabbiniques du monde orthodoxe qui étaient partisans d'une loi qui allait plus loin encore dans l'exemption et dans le refus des sanctions personnelles et collective à l'encontre des jeunes orthodoxes qui n'effectuent pas de service national.
Est-ce que cette loi a des chances de passer, et si oui, dans combien de temps maintenant?
Alors justement, les chances de passer de cette loi sont hasardeuses pour les raisons que je viens d'évoquer, mais la coalition de Benjamin Netanyahu manifestement veulent aller vite et accélérer le processus législatif, puisque la loi sera soumise à l'approbation des députés en première lecture dès la semaine prochaine en principe. Le but de Benjamin Netanyahu, c'est effectivement de faire adopter cette loi pour satisfaire les partis orthodoxes, pour que sa majorité soit stabilisée et pour que le gouvernement actuel parvienne au terme de son mandat, à savoir jusqu'à l'automne prochain, jusqu'à la fin du mois d'octobre 2026. C'est manifestement l'objectif de Benjamin Netanyahu qui fait tout pour éviter le scénario d'élection anticipée.
Pro-Reven Sapir, je rappelle que vous êtes l'un des correspondants permanents de Radio Shalom à Jérusalem et je vous remercie. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Une équipe de la Croix-Rouge et un groupe d'hommes armés du Hamas ont repris les recherches pour retrouver un corps d'otage dans le quartier de Zetoun, comme je vous le disais en titre. Le quartier de Zetoun se trouve dans la ville de Gaza City. Un an après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Liban, qui est signé le 27 novembre 2024 exactement, Tsahal dresse un bilan de son action qui vise à empêcher le Hezbollah de se reconstituer. Et je vous le disais il y a quelques instants, les chiffres ne sont vraiment pas ceux d'un cessez-le-feu. Tsahal revendique 370 terroristes éliminés en un an et plus de 1200 opérations ciblées, donc en fait, il n'y a pas de cessez-le-feu. L'Égypte chercherait à obtenir au Liban un accord inspiré de celui conclu sur Gaza. Selon le quotidien libanais Al-Akhbar, qui est affilié au Hezbollah, et qui cite des sources égyptiennes, la visite du ministre égyptien des Affaires étrangères à Beyrouth prend de l'ampleur et s'inscrit désormais dans l'élaboration d'un cadre politique pour les prochaines semaines. Les sources indiquent que les discussions ne se limiteront pas aux responsables libanais, mais impliqueront également des dirigeants iraniens. Après plusieurs jours de calme, Tsahal a encore frappé des cibles du Hezbollah au sud Liban. Selon Tsahal, ces opérations conduites sur la base de renseignements militaires ont permis de neutraliser des sites de lancement de missiles où étaient stockées des armes. Les Israéliens franchissent illégalement la frontière syrienne avant d'être interceptés par Tsahal. Donc des soldats israéliens ont immédiatement été dépêchés sur place. Il y a des individus, très probablement des druzes, qui vont rejoindre leur famille de l'autre côté de la frontière, dont certains se sont même d'ailleurs heurtés aux soldats, avant d'être reconduits en territoire israélien. Retour en France avec une sortie qui a beaucoup marqué les esprits de Gabriel Attal. Gabriel Attal, ancien Premier ministre, évidemment, tout le monde le sait, et qui dit « Mon père m'a toujours dit, tu auras beau ne pas être juif, à cause de ton nom, tu subiras l'antisémitisme comme tous les juifs de France. » Et il ajoute « Imaginer que je puisse avoir la moindre accointance avec la France insoumise est impensable. »
C'est un trouble.
C'est un sujet important. D'abord, vous savez, on a parlé des sujets de la lutte contre l'islamisme, la défense de la République, et vous avez vous-même rappelé à quel point j'avais été systématiquement ciblé par LFI à chaque fois que j'ai eu à prendre ces positions. Personne ne peut sincèrement croire que je suis un ami d'LFI ou un allié d'LFI. Je suis un des responsables politiques qu'ils ont le plus attaqué. Et je peux vous dire, pour des raisons de conviction personnelle aussi, moi j'ai grandi avec un père, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, mais qui m'a toujours dit « Tu as beau ne pas être juif, à cause de ton nom, tu subiras l'antisémitisme comme tous les juifs de France. » Et il suffit d'ouvrir les réseaux sociaux pour le voir. Donc imaginez que je puisse avoir la moindre accointance avec ce parti est totalement impensable.
Et pourtant,
pour ces élections législatives, je me suis présenté dans ces élections législatives à un moment où il n'y avait pas beaucoup de responsables politiques de mon camp politique qui étaient prêts à se battre. Je me suis présenté en disant qu'il y avait deux menaces pour le pays. Une majorité tenue par la France insoumise et une majorité tenue par le Rassemblement national. Et que je me battais contre les deux. Et au premier tour, parce que par ailleurs on a désisté des candidats dans des circonscriptions où LFI risquait de gagner, on a évacué la possibilité qu'LFI puisse l'emporter au premier tour de cette élection législative. Et au second tour, il s'agissait d'empêcher que le Rassemblement national...
Mais vous avez favorisé de fait le nouveau Front populaire. C'est mathématique, c'est têtu.
Sonia Mabrouk, il y a moins de députés LFI aujourd'hui qu'il y en avait avant la dissolution. Parce que certains comme moi se sont battus dans ces législatives où c'était beaucoup plus facile pour d'autres de ne rien dire, de ne pas se battre. Qui allait sur les circonscriptions tenues par LFI pour se battre contre eux et pour les défier sur la circonscription dans le Vaucluse de Raphaël Arnaud? C'est moi qui suis allé pour faire campagne contre eux. Il y a moins de députés LFI aujourd'hui qu'il y en avait avant la dissolution.
Gabriel Attal. Et puis le scandale à l'université Lyon 2. Vous savez, ce professeur qui a dressé une liste de gens qu'il présente comme génocidaires et qu'il faut boycotter. Comment a-t-il dit qu'il faut boycotter? On va regarder dans un instant. mais la plupart des gens qui sont sur la liste sont des juifs, et d'ailleurs des juifs bien connus, le président du CRIF, Arthur. Et le ministre de l'Éducation nationale a réagi cet après-midi. Il dit en République, on ne fait pas de liste.
Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur Pied-Noir. D'abord, je voudrais excuser l'absence de Philippe Baptiste, qui est actuellement en réunion ministérielle à Brême sur l'Agence spatiale européenne, et je réponds par conséquent, évidemment, en ces lieux et places. Vous avez raison, la République, c'est le lieu du débat démocratique. Mais en République, on ne fait pas des listes. On ne fait pas des listes de gens qu'on veut aux gémonies. On ne fait pas des listes de gens qu'on livre à la vindicte des réseaux antisociaux. Et on ne fait pas des listes à raison des convictions philosophiques ou religieuses réelles ou supposées des personnes. C'est une honte ce qui s'est passé. Alors, j'y viens. La première chose, c'est qu'on soit effectivement d'accord sur le fait que c'est profondément scandaleux. Et évidemment, en mon nom propre comme en nous gouvernement, un, je condamne. Deux, j'apporte mon soutien aux personnes qui ont été visées et à toutes les victimes de ce type de pratique. Le deuxième élément, c'est qu'il faut qu'il y ait une réponse qui est de l'ordre judiciaire. Et c'est pour ça que je tiens à saluer la réaction de la présidente de l'université, qui non seulement a condamné, mais qui a évidemment aussitôt fait un signalement sur le fond de l'article 40 au procureur de la République, qui a ouvert une enquête. Il y aura donc une suite pénale qui, évidemment, également en République, ne relève pas du gouvernement. Le troisième point, c'est ce que vous avez mentionné, c'est que nous sommes aussi confrontés collectivement, socialement, à un regard d'antisémitisme que personne ne peut nier. Et vous savez qu'il y a une loi qui a été prise, qui a été adoptée, ici même et dans l'autre hémicycle, pour permettre de renforcer la lutte contre l'antisémitisme à l'université. Et les décrets d'application sont pris dans les prochaines semaines pour permettre à cette lutte de continuer. Et pour faire en sorte que personne ne détourne le regard, personne, et que personne ne procède à une forme de relativisme face aux pratiques que vous avez dénoncées et que dont nous partageons la dénonciation.
Voilà donc le ministre de l'Éducation nationale devant le Sénat, et la phrase exacte de ce professeur de Lyon 2 est effectivement une véritable honte. Il dit 20 génocidaires à boycotter en toutes circonstances. Donc la liste est folle. Le mot génocidaire, c'est-à-dire déjà dans notre analyse à nous, il n'y a pas de génocide à Gaza, mais déjà c'est pas un animateur télé qui peut en être accusé de quelque chose qui par ailleurs n'existe pas, je le répète, mais comment peut-on accuser un animateur télé, un président du CRIF d'être un génocidaire? Et le mot à boycotter en toutes circonstances veut évidemment dire qu'on veut rayer ces gens de toutes les circonstances. Donc après, c'est assez simple, quoi. Et d'ailleurs, pour comprendre la profondeur et la virulence de l'antisémitisme en France, je vous propose de vous boucher le nez, mais d'ouvrir vos oreilles et d'entendre les énormités qu'on raconte sur Amir à Marseille pour manifester contre lui et le boycotter.
Bonjour Marseillais, Marseillaise, au cas où vous n'êtes pas encore au courant, nous allons avoir, j'allais dire, la malchance de recevoir ce fameux artiste Amir Haddad qui va venir se produire au Dôme le 29 novembre. Nous vous invitons tous et tous à boycotter son concert, nous vous invitons à écrire massivement au Dôme ou à leur téléphoner pour leur expliquer que Marseille ne peut pas être complice du génocide aujourd'hui. En acceptant de recevoir Amir, qui dans différents concerts a appelé à soutenir l'armée génocidaire israélienne, dans plusieurs concerts il a pris la parole pour dire qu'il avait fait son alia, bien nous l'invitons à poursuivre son alia, à aller vivre en Israël, là où il y a un gouvernement génocidaire.
Non mais vous avez entendu. D'abord déjà on l'appelle avec son nom de famille, alors que c'est le chanteur Amir, pour bien préciser qu'il est juif. Et ensuite, retourner... d'abord, et deuxièmement, des accusations qui sont sans fondement. Je connais un peu le sujet. Amir ne parle pas d'Israël dans ses concerts. Et troisièmement, qu'il parte vivre en Israël, puisqu'il est fier d'avoir fait son alia. On va reprendre le sourire en parlant avec des gens qui vivent en Israël avec le plus grand plaisir. Et qui ont bien raison. Puisque Sarit Haddad, justement... célèbre ses 30 ans de carrière.
«
Voilà, on a un peu brisé les règles du journalisme en passant un passage qui est un peu, pour le plaisir, un peu long. Sarita Dade, 30 ans de carrière.